L'AMIF, le salon de l'Association des maires d'Île-de-France, les 28 et 29 juin 2022 sur Radio Imo et Radio Territoria.
Bonjour à tous et à toutes, on est toujours en compagnie, on est toujours sur le salon de l'Association des maires d'Île-de-France, mardi 28 juin, ici à la Porte de Versailles. On est ravis d'accueillir Mireille Alphonse. Bonjour Madame Alphonse.
Bonjour.
Vous êtes adjointe au maire de Montreuil en charge de la transition et de la démocratie alimentaire. Voilà,
c'est
un
ça.
Beau programme. Avec vous, on va justement parler de ces politiques alimentaires territoriales et notamment de cette précarité. Ça veut dire qu'en France, en 2022, il y a encore de la précarité alimentaire avec tout ce qui est produit, consommé et malheureusement parfois jeté.
Oui, c'est absolument un des grands scandales que l'on vit toutes et tous, et que non seulement en France, mais en Île-de-France. L'Île-de-France qui est une des premières régions au niveau richesse d'Europe.
Ben oui.
Et on continue à vivre ça. Alors, nous, à Montreuil, on a entre un quart et un tiers de la population qui vit en dessous du seuil de pauvreté.
Un tiers et un quart ?
Mm-hmm.
D'accord.
Je dis entre eux parce que, en fait, durant le Covid, durant la pandémie, durant les deux années que nous venons de passer, les choses se sont détériorées pour une raison qui s'explique. C'était parmi les populations les plus modeste, en bas de l'échelle socio-économique. On a beaucoup de gens qui ont des petits boulots, vous savez, des contrats,
oui.
Tôt le matin, tard le soir. Et tous ces métiers se sont arrêtés pendant la pandémie, ce qui fait que du jour au lendemain, ils sont tombés dans une précarité extrême et que des familles qui, avant, en plus, pendant les moments où on a été vraiment confinés, des familles qui au moins pouvaient être assurées que leurs enfants pouvaient déjeuner correctement le midi à la cantine. Il n'y avait plus de cantine. Et donc, elles étaient obligées d'acheter à manger plus que ce qu'elles n'achetaient avant.
C'est vrai.
Et on s'est retrouvés à devoir aider 3000 ménages de plus qu'avant au niveau de l'aide alimentaire.
Combien vous en aidez aujourd'hui sur Montreuil ?
On en aide aux alentours de 6-7 000.
Ah oui, c'est énorme.
Quand même.
D'accord.
Voilà.
Et comment ça s'organise ? C'est-à-dire, on sait, on en parlait, hein, que voilà, dans les circuits, il y a beaucoup de, malheureusement, de casse, comme on dit dans le commerce alimentaire, c'est-à-dire des choses qui sont jetées avec des dates de péremption, etc. Est-ce que vous avez arrivé à en récupérer, à drainer ce flux de marchandises finalement qui est jeté tous les jours ?
Alors, j'aurais envie de vous dire oui et non. Oui et non, parce qu'il y a quand même plein d'initiatives qui sont prises. Il y a aussi des initiatives où nous, on n'intervient pas beaucoup, mais qui sont prises, par exemple, entre la grande distribution, des associations de solidarité sur le terrain. Donc ça, à l'extrême, on agit pour que le maillage se fasse correctement. Mais sinon, on n'a pas beaucoup besoin d'intervenir. On est intervenu de façon un peu plus dirigiste avec, vous savez, ce qu'on appelle les marchés de plein air. Hein. Mmh. En leur disant, bon, il est hors de question de continuer à jeter à la fin du marché. Et donc là, on a fait en sorte que des conventions puissent être passées avec des associations de solidarité. Quand je vous disais oui et non, parce que notre gros souci, ce sont évidemment les cantines scolaires.
Oui.
Là, il y a un travail énorme à faire, parce qu'on sait qu'on est à peu près à 30% de gaspillage.
Oui. Comment ça se fait, pourtant on le sait, on n'a pas les moyens aujourd'hui d'ajuster les quantités, de se dire, bah tiens, pour des élèves, ça paraît pas insoluble comme problème. Comment ça se fait qu'on arrive encore à ces taux de...
Alors si vous voulez, tout ça est extrêmement réglementé du point de vue de l'éducation nationale. On sait que par tranche d'âge, il faut X grammes de viande, X grammes de fruits et légumes. Tout ça est extrêmement réglementé, donc on fait attention à ce que les portions soient correctement dimensionnées par rapport à l'âge d'un enfant.
Oui, mais les enfants disent, soit ils n'ont pas faim, bon, ça peut arriver, ou alors on en a trop.
Oui, tout à fait. C'est pour vous dire que... Sur le papier, les choses sont normalement correctement dimensionnées. Après, il y a les questions du goût, de l'appétence des enfants, de ce qu'ils mangent à la maison, de ce qu'ils trouvent à la cantine et du différentiel au niveau du goût, au niveau des saveurs, des épices, etc., qu'il peut y avoir entre une assiette à la maison et puis une assiette à la cantine. Et on est en train de travailler dessus pour justement faire en sorte que tous les enfants s'y retrouvent. Vous savez, Montreuil, on a une extrême diversité. On a plus de 100 nationalités différentes. Donc on a vraiment des gens, des familles qui arrivent des quatre coins de la planète. Et on est en train de travailler là-dessus. On est en train de travailler au renouvellement de la délégation de services publics pour les repas dans les cantines. Et justement, c'est une des demandes que l'on a, c'est de faire des repas, des menus qui correspondent au goût des enfants.
Et c'est quoi les goûts des enfants? Enfin, on imagine, hein, je vais caricaturer, ouais. Le brocoli bio pas terrible, les frites avec du
brocoli,
ketchup.
Quinoa, ça passe pas trop. Non, alors évidemment, on demande aux enfants, vous devez connaître ça par cœur, on leur dit poulet frites, là, tout de suite, tout le monde applaudit.
Ça plaît à tout le monde, oui. Voilà. On peut pas manger ça 5 jours sur 7.
Voilà, on peut pas manger ça 5 jours sur 7. On a, comme je vous le disais tout à l'heure, on a une ambition qui est... on sait très bien que, bon, il y a des enfants qui viennent à la cantine et qui, le soir, mangent très bien avec papa et maman. D'autres, c'est plus compliqué. Et donc, on a quand même cette ambition de leur servir un repas qui soit... très, très sérieusement équilibré au niveau nutritif pour que tous nos enfants aient au moins un repas de qualité. Ouais. Alors après, effectivement,
surtout quand c'est le seul repas de qualité par jour.
Surtout quand c'est le seul repas de qualité par jour. Donc, on travaille beaucoup là-dessus et dans le renouvellement sur lequel on est en train de travailler, cette dimension va être une dimension énorme. De faire en sorte que non seulement les quantités et les qualités nutritives soient là, mais les qualités gustatives aussi au regard du goût des enfants.
Est-ce que, Mireille et Fons, vous mangez à la cantine de temps en temps?
Ça m'est arrivé,
ouais. Vous testez ce que mangent les gamins?
Oui. Alors oui, je dois vous dire que oui. Et je me suis toujours demandé si ils avaient fait exprès parce que je venais. Ouais. Et que du coup, c'était pas... Bon, moi, j'ai aussi été une élève, hein, comme nous tous, et j'ai aussi mangé à la cantine. J'ai trouvé que c'était plutôt meilleur que ce que j'avais connu quand j'étais enfant moi-même.
Après, est-ce que c'est pas le menu spécial adjoint au maire, peut-être?
Voilà, c'est pour ça que je me permettais de rigoler un tout petit peu. Je crois pas, franchement, mais bon, c'était très correct. Après, je peux comprendre que... Parce qu'il y a une autre dimension qui est extrêmement importante, c'est celle de l'éducation au goût, de l'éducation au menu. Et ça, quelle que soit la culture. C'est-à-dire qu'on voit aussi des enfants de familles qui viennent du Maghreb ou d'Afrique subsaharienne, dont les parents étaient habitués à une nourriture finalement très équilibrée, mais qui ne veulent plus manger de ça. Mm-hmm. Parce qu'ils veulent manger des pizzas, ils veulent manger des kebabs et des frites. Et voilà, et donc il y a toute cette éducation, ce travail qui doit être fait. J'ai beaucoup d'institutrices qui le font, et nous, on a à cœur de le faire aussi au niveau de le soir, avec les associations, etc.
Et puis ça pourrait être bien aussi d'associer peut-être les enfants justement à cette culture du goût, pourquoi pas des cours de cuisine, mais on voit le succès des émissions populaires
ici,
Top Chef, etc. Ça peut les intéresser, ça peut même, pourquoi pas, créer des vocations. Je voulais parler, alors, outre l'accès à l'alimentation bio, qui est un de vos fers de lance, le lien avec les maraîchers également en bio pour faire des circuits courts, c'est-à-dire bénéficier finalement du travail qui est fait dans les régions environnantes, ou du moins, c'est l'Île-de-France, est aussi un territoire formidable, beaucoup d'expérimentations. Comment on réduit justement ces circuits courts, comment on essaye de faire de la proximité?
Je crois qu'il y a un élément qui est absolument essentiel, c'est qu'il faut bien faire comprendre aux mangeurs que nous sommes et qui sommes en grande agglomération, qu'on mangera correctement, c'est-à-dire du bon, du bio, du qualitatif, à partir du moment où on aura fait attention aux conditions de vie des producteurs. Donc il y a ce lien à faire entre les mangeurs urbains d'un côté et de l'autre côté les producteurs, les maraîchers. Ça veut dire qu'il faut qu'on comprenne aussi leur modèle économique. On ne peut pas penser qu'il soit durable de manger, par exemple, des fraises bio qui auraient été produites à 50 km de Montreuil si la famille qui produit ces fraises bio, en gros, ne se paye pas ou à l'extrême lance-pierre, quoi. Donc, il faut travailler avec les producteurs sous forme de convention et donc d'engagement à ce que la ville leur commande régulièrement X centaines de kilos de produits, etc., pour qu'ils puissent se sentir suffisamment confortables au plan économique pour pouvoir justement développer des productions comme ça. On n'a pas encore fait cela, mais c'est vers cela qu'on veut aller. Mmh. Alors à la fois avec des producteurs qu'on a, on a commencé à aider à avoir des relations avec des producteurs, vous savez, sur le fameux triangle de Gonesse, dans le Val d'Oise. Et puis, de façon plus massive, on commence à travailler avec des gens du Val de Loire, puisque le Val de Loire, comment ça, c'est le jardin de la France, c'est pas trop trop loin. On a déjà des expérimentations dans certains quartiers où certains maraîchers viennent et nous apportent leur production. Et ça, c'est quelque chose qu'on va démultiplier. La clé, comme vous disiez tout à l'heure, c'est d'impliquer les enfants. Là, la clé, c'est d'impliquer les habitants de quartier.
Oui.
Et de leur dire, ben, vous allez être partie prenante quand le camion va arriver avec les produits bio. C'est vous qui allez aider à la distribution. Et donc, on est en train de travailler cela.
D'accord. J'ai cru que vous alliez me dire, on met les habitants à contribution avec leur jardin potager. Peut-être pas encore.
Il y a aussi ça. Il y a aussi ça. Après...
Non, mais c'est important aussi pour comprendre aussi le vivant. Je trouve qu'aujourd'hui, malheureusement, dans les grandes villes, on est un peu coupé. On ne sait plus comment très bien poussent les fraises, les concombres, etc. Là, c'est intéressant de revoir un petit peu le jardin, même s'il est fait à toute petite échelle. Une dernière question, c'est sur l'inflation. Hein, c'est le grand thème aussi. Vous parliez, même si on est en circuit court, bah, c'est sûr que le gasoil augmente. On a dépassé les 2 euros le litre de super, même le gasoil, etc. Tout va augmenter. Est-ce que c'est une donnée que vous avez quand justement on veut faire du bio, on veut faire du bon pour les élèves et pour les habitants? C'est une donnée qu'a pris en compte l'Amérique. Ça va peser sur le budget?
Ça va évidemment peser sur le budget. C'est une donnée qu'on prend en compte. C'est une donnée qui nous effraie tous. Parce qu'il y a cette inflation concernant l'alimentation. En fait, il y a cette inflation concernant toutes les fonctions premières de nos vies.
Oui.
C'est-à-dire l'alimentation, les mobilités, etc.
Le logement.
Donc le logement, le chauffage.
Ouais.
On ne sait pas trop l'hiver prochain quelles conséquences ça va avoir sur le chauffage des familles. Donc évidemment, c'est quelque chose qui nous concerne beaucoup. Pour revenir sur les maraîchers, on est en train de discuter avec eux justement sur le modèle qu'on veut construire et voir dans quelle mesure ils peuvent s'engager sur des prix qui seraient constants à un an pour que les familles puissent savoir à quoi elles s'engagent. Mais on travaille aussi beaucoup avec des AMAP. On a 14 AMAP dans la ville. Des associations pour le maintien de l'agriculture paysanne.
Merci.
Voilà.
Parce qu'il y a beaucoup d'acronymes aussi.
Oui, pardon. Et avec les AMAP, on est à l'écoute des producteurs et on essaie de voir avec eux au plus juste d'essayer de juguler cette inflation tout en faisant en sorte qu'eux puissent continuer à vivre.
Ouais.
Mais c'est sûr que les mois qui sont devant nous sont extrêmement inquiétants.
Bon, eh bien, on va finir sur une touche quand même plus sympathique.
Joyeuse.
C'est-à-dire que on est ici aussi pour discuter de ces questions, pour trouver évidemment des solutions. On sait que vous êtes mobilisés. En tout cas, un grand merci, Mireille Alphonse. Je rappelle que vous êtes adjointe au maire de Montreuil, en charge donc de cette transition et de la démocratie alimentaire. Un grand merci d'être passé par notre plateau et à très bientôt.
Merci beaucoup à vous.
L'AMIF, le salon de l'Association des maires d'Île-de-France, les 28 et 29 juin 2022 sur Radio Imo et Radio Territoria.